Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons continuer donc notre développement concernant la Segula et la Bechira, c'est-à-dire ce que nous avons défini comme étant la capacité de base qui est intrinsèque, qui nous a été donnée dans notre nature, implantée dans notre nature. Et le deuxième degré, le degré de la Bechira, le degré du choix que nous avons de développer, donc d'extérioriser cette force qui est innée et de la vivre. Donc ce sont deux degrés par lesquels nous devons savoir que la sainteté d'Israël se définit par ces deux degrés-là. Ce sont deux étages. Un étage donc dans lequel, sur lequel nous n'avons aucune possibilité d'agir, ça c'est la Segula, et l'étage inférieur, l'étage dans notre monde, qui lui est soumis à notre choix, et nous avons précisé que nous n'avons en réalité qu'un seul choix, c'est de dévoiler ou de ne pas dévoiler ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est inné à l'intérieur de notre être. Et nous avons la possibilité ou de dévoiler ou d'étouffer, d'ignorer ce que vous voulez, cet étage qui est l'étage supérieur. Si on le traduisait avec des mots un petit peu plus simples tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la neshama et le corps. C'est pareil. C'est-à-dire que notre neshama a été doté de toutes ses qualités depuis sa création. On n'a rien à faire sur notre neshama. Mais notre partie extérieure, superficielle, c'est-à-dire notre corps, lui doit vivre selon les degrés, les critères de cette neshama. Et donc, ce que nous venons faire dans ce monde, c'est traduire les valeurs de la neshama intérieure dans notre monde extérieur, corporel, physique, matériel. Alors vous voyez là aussi ces deux étages, la neshama et le corps. La même chose au niveau du couple, l'homme et la femme. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'homme représente la force qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu, et le rôle de la femme, c'est de dévoiler ça. Donc la femme, elle est dotée d'une capacité de traduire les potentialités en quelque chose de réel. Par exemple, la femme traduit la pensée d'un bébé, en bébé. C'est-à-dire que seule la femme est capable de traduire une idée et d'en faire un être humain. C'est pour ça que ça se passe chez elle, dans son corps à elle. Alors que le bébé existe déjà en potentiel chez l'homme, mais il est incapable de le dévoiler. Donc vous voyez que la relation, ce couple-là, on peut le retrouver en fait dans toutes les formes, dans tous les degrés de notre vie. On peut dire la même chose concernant le ciel et la terre. C'est la même chose. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Le degré shamayim, c'est le degré potentiel. Le degré eretz, c'est la réalisation. D'accord ? Donc les problèmes ne se trouvent jamais dans le potentiel, en fait. Les problèmes se trouvent pratiquement toujours dans la capacité de dévoiler ou bien d'étouffer ce dévoilement. C'est pour ça que le texte, dès le début de la création du monde, nous dit « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz »« Ve'ha-aretz ha-ita tohu vavohu »« Ve'choshech al-pnei tehom » C'est-à-dire le tohu bohu, le mélange, le manque d'ordre, se trouve sur la terre, sur le côté révélateur, dans l'ustensile, pas dans la lumière. Et donc c'est là-bas où il faut faire le travail, le tikkun, la réparation. Donc en réalité, nous sommes tous du côté, entre guillemets, de la révélation des choses, et c'est là-bas où il faut travailler. Donc il ne faut pas toucher, pour résumer un petit peu ce degré-là, il ne faut pas toucher à notre neshama, il n'y a rien à faire au niveau de notre neshama, c'est une force qui nous a déjà été donnée, gratuitement, elle est en nous, faut tout simplement l'aider à se dévoiler. D'accord ? Donc le travail, et dans les kelim, dans les instruments, et non pas dans l'essence des choses. Donc il y a or et kli, la lumière et l'ustensile, il faut travailler dans les kelim. Il faut donner des mesures à cette lumière pour que cette lumière se réalise dans cette vie. On appelle ça dans un autre langage, tikkun hamidot. Avodat hamidot. On va travailler sur nos mesures, sur nos vertus. C'est-à-dire, on va donner des mesures à ce degré qui est de l'au-delà, qui est de l'ordre de la neshama. C'est clair ce que je suis en train de dire? Donc en réalité, si je devais traduire tout ce que je viens de dire en chiffres, nous avons le 8, qui est la neshama, c'est les mêmes lettres, shmoné, neshama, en hébreu, et le 7, qui est le corps, sheva. C'est-à-dire le 7 est relatif au corps, alors que le 8 est relatif à l'âme. Donc nous devons travailler en fait sur le 7. On n'a rien à faire au niveau du 8. On doit tout simplement faire en sorte que le 8 se révèle dans le 7. Que le ciel, le 7 va vivre selon les degrés du 8, mais ne va pas se transformer en 8. Sinon, il ne sert à rien. À partir du moment où je me transforme en quelque chose que je ne suis pas, je n'ai pas réalisé mon être. Par contre, tout en étant ce que je suis, je dois vivre selon les critères du 8. D'accord ? Donc le corps, sans devenir une neshama, il doit rester corps, mais il doit révéler les caractéristiques de la neshama. La terre ne se transforme pas en ciel, mais elle doit réaliser les valeurs du ciel, tout en restant terre. La femme ne doit pas devenir un homme, mais elle doit révéler son homme, tout en restant femme. D'accord ? Ça, c'est le travail, et c'est avec ça qu'on va essayer de développer maintenant ce que le Rav nous dit. Donc, nous sommes arrivés à la petite lettre B, Inyana Bechira. Donc, nous avons dans le choix, donc, Zetaloui Bema'ase Ato ou Betalmud Torah. Ça dépend de nos actions, les actions du bien, qui, bien entendu, nous devons étudier la Torah pour faire ces actions-là. Quel rapport ? Mais sans étudier la Torah, je ne sais pas ce que je dois faire. Puisqu'il s'agit ici de valeurs qui viennent de l'au-delà. Il s'agit ici des valeurs qui viennent de l'ordre de la Neshama. Mais si je n'ai pas un texte ou quelque chose qui me dit ce qu'il y a là-bas, je ne peux pas traduire ce qu'il y a là-bas dans le ici, dans le maintenant. Donc, quel texte, quel est le programme qui m'indique ce qui se trouve dans le monde du 8, dans le monde céleste, dans le monde de l'au-delà, dans le monde de la Neshama, la Torah. Donc en étudiant la Torah, j'étudie en fait les valeurs du ciel. Et qu'est-ce que je fais avec ? Je les traduis, ces valeurs-là, dans mon monde. Ça, c'est l'application des mitzvot. Donc à chaque fois que je réalise une mitzvah, je fais couler les valeurs du ciel pour qu'elles arrivent sur terre. C'est clair ? Donc, à travers ma mitzvah, comme si ma mitzvah, imaginez-vous la mitzvah comme un canal, comme un tuyau. Chaque fois que je réalise une mitzvah, j'utilise un canal par lequel maintenant est en train de circuler une valeur céleste à travers la mitzvah que je suis en train de réaliser. Exemple, je suis en train de donner un cours de Torah maintenant, vous êtes en train d'écouter un cours de Torah, c'est une mitzvah. Nous avons une mitzvah d'étudier la Torah. Vehagita bo yomam valayla. Qu'est-ce qui se passe pendant que je suis en train de faire ça? Eh bien, il y a une valeur céleste qui est en train de circuler à travers notre étude maintenant, et qui va remplir notre vie, c'est-à-dire que dans une heure, nous serons remplis plus de quelque chose que nous n'avions pas à 9h du matin ce matin, grâce à cette étude. Donc en fait, il y a comme une parcelle de Dieu qui traverse notre étude maintenant, et qui va être plus claire dans une heure qu'elle ne l'était une heure avant. C'est clair ? Donc en réalité, à chaque fois que je réalise une mitzvah, c'est Dieu qui circule dans la mitzvah que je suis en train de réaliser. D'accord ? C'est ça la nouveauté. C'est pas que je t'envoie m'acheter une bouteille d'eau à la macolette Tu n'as aucun rapport avec moi. Je t'ai envoyé juste et aller à la macolée, tu m'as acheté quelque chose. Non. Lorsque Dieu me dit, par exemple, de faire une mitzvah, lui-même, il est dans la mitzvah que je suis en train de réaliser. Et c'est pour ça que le mot mitzvah en hébreu tire sa source dans le mot tzevet, c'est-à-dire équipage. Tzevet hamatos, l'équipage de l'avion. Donc le mot mitzvah ne veut pas dire un ordre, mais veut dire équipe. C'est-à-dire qu'au moment de la mitzvah, je fais équipe avec Dieu. Et il circule dans la mitzvah que je suis en train de réaliser. Il faut que les choses soient bien claires. Okay? Chelek shel hasgula. Alors maintenant, le Rav va développer. Chelek shel hasgula hu harbe be'en aroch klal yoter gadol vekadosh me'achelek ataloui babchira. Le Rav nous dit maintenant quelque chose d'important, une information importante. La partie intérieure, c'est-à-dire supérieure, que nous avons définie comme étant la Segula, est beaucoup plus grand, sans aucune commune mesure, que la partie que nous avons appelée la Bechira, le choix. C'est-à-dire la sainteté de la Segula, de notre Neshama, est beaucoup plus grande que la sainteté, que la valeur, que la grandeur de nos actions. C'est-à-dire si on devait mesurer en pourcentage, on dirait par exemple, et même ces chiffres ne sont pas vrais, mais c'est juste pour exprimer un petit peu la chose, si on a 100%, il y a 99% de Neshama, c'est 1% de corps qui révèle. D'accord? Et là, chez Brit Krutahi, seulement, il y a une alliance, un axiome de base. Chez Asgula, Apnimit, Lotit Galé, la Segula ne pourra jamais se réaliser, se découvrir, se dévoiler. Bisman Azé, de notre époque, maintenant, ici, dans le temps, que nous sommes soumis au temps, qui im le fiota hamida sheabchira mesaya et giluya. Si ce n'est qu'en se servant de la bechira, du choix. J'explique avec des mots simples. La neshama qui est hors du temps ne peut pas se dévoiler dans ce monde si ce n'est que par le choix de l'homme. Alors qu'elle est 99% des forces. Le corps n'est que 1% des forces, et pourtant, la Neshama ne peut pas se dévoiler si le corps ne veut pas, entre guillemets. C'est-à-dire, si je n'ai pas le choix de vouloir, la Neshama ne se dévoile pas, contrairement que chez les animaux. Chez les animaux, il n'y a pas de vouloir ou de ne pas vouloir, l'animal ne veut pas, il est, tout simplement. C'est-à-dire que sa Neshama se révèle dans son corps. L'oiseau est oiseau, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il vit en tant qu'oiseau. Jamais il fait autre chose que de vivre comme un oiseau. Donc il est fidèle à sa neshama, d'oiseau, à son être intérieur qui est d'être oiseau. Chez l'homme, ce n'est pas pareil. J'ai une neshama, mais je peux vivre complètement différemment dans ce monde par rapport aux valeurs de ma neshama. Oui ou non? C'est-à-dire, j'ai le choix de vivre comme un animal si j'ai envie. Alors que je suis un homme. Il n'y a qu'à voir nos voisins. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous avons le choix de réaliser notre être ou bien d'étouffer notre être, de l'ignorer et de vivre complètement différemment par rapport à lui. Donc tout dépend de quoi maintenant? De la Bechira, du choix. Et c'est pour ça que l'élément essentiel dans notre monde, c'est le choix. Le choix de révéler ou le choix d'étouffer. Et c'est sur cette partie-là que nous devons travailler, c'est-à-dire sur notre vouloir. Est-ce que vous voulez quelque chose? Ou est-ce que vous ne voulez pas? Parce que votre vouloir, en fait, révèle votre état. Si tu veux quelque chose, bien, tu es en train de me raconter ton état d'esprit. Si tu ne veux pas quelque chose, tu es en train de me raconter aussi. Et donc, tout va dépendre de ma volonté. Je peux comprendre un texte si je veux, vraiment. Mais si je ne veux pas, ne serait-ce que quelques pourcents, eh bien, je me suis moi-même bloqué à ne pas révéler la chose. Et là se cache un secret énorme. Ce que vous voulez vraiment au fond de votre vouloir, mais à 100%, vous le réalisez. Exactement. Et si vous ne voulez pas dedans, si vous laissez une petite ouverture au degré négatif, eh bien, vous commencez déjà à boiter. Exemple. Vous voulez vous lever à 5 heures du matin. Si vous voulez vraiment vous lever, vous allez vous lever. Si vous avez dit, non, je suis un petit peu fatigué, peut-être que demain je me réveille pas, c'est fini. Ce petit peut-être, ce petit doute que tu as introduit, il a bloqué le système. Mais si tu ne te donnes pas le choix, je dois me lever à 5 heures. Demain, je me lève à 5 heures. Mais Ezrat Hashem, je me lève à 5 heures. Même sans réveil. À la limite, tu ne vas pas dormir toute la nuit pour te réveiller à 5 heures. Ou tu vas te réveiller toutes les demi-heures pour regarder ta montre. Mais ta décision est tellement forte que ça ne te laisse plus le choix d'autre chose. Vous comprenez comment ça marche ?
Mais il faut qu'on regarde le but comme ça.
Devant les yeux.
Pour pouvoir
exactement.
Se bloquer.
Il y a fait. Il y a fait. Et donc, plus ton but est clair devant tes yeux, plus tes choix sont clairs et radicaux. C'est-à-dire, ils ne laissent pas d'ouverture à autre chose. Je veux. Donc, je vais réussir. Bien entendu, tout ça, ben, Ezrat Hashem. Mais ici, la volonté de l'homme, de la femme, sont primordiaux. C'est très important. Donc, le mot « rasson » en hébreu, regardez bien comment il s'écrit. C'est les mêmes lettres que « sinor ». Un conduit. Donc vous avez transformé votre rasson en sinor. Vous devenez un conduit, un conducteur par lequel la volonté va passer. Donc le Zohar HaKadosh nous dit « Hafor ratson vekabel sinor ». Taka, t'occuper de ton rasson, de ce que tu veux vraiment dans ta vie, et tu vas devenir le porte-parole, le porteur du message que tu veux faire passer. Donc tu inverses les lettres de Rasson et tu obtiens les lettres de Sino. Donc si je veux devenir, j'en sais rien moi, pour le vrai Rasson, Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui génère la Torah, eh bien je deviens un canal par lequel la Torah va passer. Finalement, c'est moi qui décide de ma vie. Puisque le potentiel a déjà été introduit en moi, et toutes les décisions de ma vie, c'est je veux ou je ne veux pas. Donc je suis comme un interrupteur, on, off, je veux, ça passe, je ne veux pas ou je laisse une petite ouverture de je ne veux pas, court-circuit ou ça ne passe pas. D'accord ? Donc si vous avez cette clé en main, elle peut vous ouvrir plein de portes. Parce qu'en réalité, le choix de votre vie se place chez vous. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide de votre vie. Il vous a déjà donné votre potentiel, c'est à vous de le développer. D'accord ? Akadosh Baruch Hu m'a créé artiste, j'ai qu'à rentrer dans mon studio tous les matins, dans mon atelier, pour réaliser l'art qu'Akadosh Baruch Hu a introduit en moi. Donc je deviens artiste peintre. Je n'ai pas inventé ça. Je n'ai pas apprendre quelque chose que je n'ai pas en moi. J'apprends simplement à dévoiler ce qui est déjà en moi. Donc je m'exerce. Je m'entraîne. Comment on dit s'entraîner en hébreu ? Lehit amen. Lehit amen. Racine du mot emuna. Amen. Donc les itamen s'entraîner, c'est tout simplement avoir la emouna. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir la emouna ? S'entraîner. S'entraîner à quoi ? Eh bien à dévoiler ce que tu veux faire dévoiler. Si je veux dévoiler Dieu, Je dois m'entraîner, je dois avoir la émouna en lui. Donc le mot émouna ne veut pas dire foi, vous comprenez bien maintenant. Ça veut dire tout simplement donner à la chose en laquelle tu as foi la possibilité de se réaliser. En qui vous croyez le plus ? En vous-même, d'abord. D'accord ? La preuve, c'est que tu vis. Tu ne te poses même pas de questions. Qu'est-ce que ça veut dire croire en toi ? C'est vivre, tout simplement. Tu réalises ta vie. Le chidouche, c'est si tu arrives à vivre Dieu. Tu as raison. Ça, c'est déjà une étape supérieure. Donc le premier degré en quel nous avons foi naturellement, c'est-à-dire nous vivons cet être, c'est nous-mêmes. Ce que je vis, je me vis. Je peux dire donc, à partir de cela, qu'un chien vit sa vie. Donc il est ma'amine. Il a la émouna en son degré de chien. Comme l'oiseau de tout à l'heure. L'homme doit avoir la réalisation de lui-même, c'est-à-dire il doit être ma'amine en lui. Mais amen, il doit s'entraîner à révéler sa nature d'homme ou de femme. Et notre haut niveau, c'est d'arriver à réaliser qui ? Hachem, dans notre monde. Donc avoir la émouna en lui. Donc le mot Leha Amin ne veut pas dire donc croire en, okay, mais vivre. D'ailleurs en anglais, c'est plus exact qu'en français. Comment on dit le Amin en hébreu, en français, en anglais? To believe. Et il y a le mot vivre la chose. Alors qu'en français, tu ne l'entends pas. D'accord? Il y a le mot life. Alors qu'en français, tu peux pas. Alors que tu devrais dire au lieu je crois en Dieu, je vis Dieu. Ça, c'est beaucoup plus exact. Et pour cela, il faut s'entraîner à vivre le divin à chaque instant dans notre vie. C'est ce qu'on fait pendant qu'on étudie. On s'entraîne, là vous êtes dans un entraînement. Vous étudiez l'entraînement. Vous étudiez, vous êtes en cours de Emouna. Donc vous êtes en train de vous entraîner à vivre le divin. Dans tous les actes de votre vie. Dans votre pensée, dans vos paroles, dans vos actions. Et plus tu t'entraînes à vivre le divin, plus tu deviens divin sur terre. Et c'est ce que nous devons être, tout en restant des hommes et des femmes. Mais on a des qualités divines, qu'Akadosh Baruch Hu a introduit en nous, que nous devons réaliser. Et à partir du moment où je réalise pleinement le divin sur terre, c'est ce qu'on appelle la Geoula Shlema. La délivrance complète de ce monde. Ce monde, quel ? Il a fait. On prend le Olam Abba, les valeurs du Olam Abba, et on les traduit dans le Olam Azé. Vous comprenez bien que le Olam Abba n'est pas dans le futur. Ça aussi, c'est une erreur. Le Olam Abba est dans le monde parallèle. Olam Abba, c'est au présent ou au futur ? C'est au présent. Si c'était au futur, j'aurais dit Olam Sheyavo. Olam Abba, c'est traduction réelle, le monde qui vient. Donc je ne peux pas l'appeler comme vous l'appelez en français le monde futur. C'est une bêtise. Vous comprenez ? C'est pas le monde futur, c'est le monde présent. Mais il est dans un monde parallèle, je ne le vois pas. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement le voir, commencer à le voir, commencer à l'étudier, et amener ces valeurs dans le monde que je palpe, que je touche, qu'on appelle Olam Hazé. Donc le Olam Abba et le Olam Hazé sont dans le même lieu, au même moment. Un est caché, l'autre est dévoilé. Je reviens à notre couple de tout à l'heure. Le Olam Abba, c'est ma Neshama. Le Olam Hazé, c'est mon corps. Et le Olam Hazé doit vivre selon les degrés du Olam Abba, c'est-à-dire que mon corps doit vivre selon les degrés de ma Neshama. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut mettre de l'ordre dans toutes nos croyances, dans tout notre système d'études. Ok ?
Quand vous dites ça, vous considérez que l'Olam Abba est lié à cette notion-là de l'intérieur de la vie, et ça, ou est-ce que vous considérez qu'il y a l'Olam Abba maintenant, qui est parallèle à votre...
Je ne réduis rien, je le laisse, il est dans son monde, il est infini. Mais moi, dans mon olam hazé, je dois capter des parcelles de cet infini. Plus je vis des parcelles du olam haba dans ma vie, plus je transforme ma vie en un degré de olam haba. Et nous avons tous.
Il y a l'olam haba.
Tu peux le découvrir à partir du moment où ton corps n'existe plus. Donc il n'y a plus de limites. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de nouveau, qui n'était pas. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de découvrir le olam haba durant ma vie. Si je n'ai pas réalisé chas v'shalom cet idéal, je le découvrirai le olam haba, mais après ma mort. C'est dommage. Et là-bas, on va me dire trop tard. Tu aurais dû vivre ce olam haba durant ta vie. Pourquoi t'attends de mourir pour vivre le olam haba? Pourquoi t'attends de mourir pour découvrir que tu avais une neshama? Et pas devenir un automate. Je prends un verre d'eau, je vais à Konya Lidvaro. Comme si c'était un automatisme, je vais appuyer sur un bouton. Non. Essaye d'écouter ce que tu es en train de dire. Par exemple. Ken, Pahu Chata Hashem, tu es relié à moi, à Kadosh Baruch Hu, par ce verre d'eau pour l'instant. Ken, Eloheinu, Melech HaOlam, tu es le roi de l'univers tout entier. Chez Harkol, que tout ce que je vois ici, ce que je ne vois pas non plus, Nihia Bidvaro a été réalisé par ta parole. Oh, ça change tout, hein? Ainsi que ce verre d'eau. Quand j'ai réalisé comme ça cette mitzvah, maintenant je bois ce verre d'eau. Je ne bois plus du H2O, ou l'oxygène, ou de l'hydrogène, ou ce que tu veux, ou de l'eau. Je bois la parole d'Hachem, je bois Hachem, carrément, il me traverse maintenant. Il me traverse et je suis complètement imprégné d'autre chose, de vie. Mais si je bois ce verre sans bracha ou d'une bracha qui est complètement mécanique, j'ai bu de l'H2O, c'est-à-dire deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène au milieu. Sympathique, mais... Vous comprenez comment ça marche? Donc, Alken, Hakol Talui le Firova Maase, Vekdushata Emuna, Vetalmud Torah. Donc tout dépend de nos actions avec la pensée, bien entendu, Vekdushata Emuna, et la sainteté de mon entraînement, Emuna, de ma réalisation des choses, Vetalmud Torah et de l'étude de la Torah. Ok? Vehashem Idvarach, et Akadosh Baruch Hu béni soit-il, Hanoheg bechazdo becholdor, qui conduit ce monde, chaque génération avec sa bonté, avec sa mida de chesed, d'amour, mesader hu et sidre haneshamot atzrichot leofia baolam. Il arrange, il met en place, il met en ordre toutes les neshamot qui doivent apparaître dans ce monde. D'accord? Chaque génération, il y a une apparition de certaines neshamot plutôt que d'autres. On est d'accord? Il y a des neshamot qui n'apparaissent pas, ou qu'elles sont déjà parties, parce que le corps n'existe plus, on a enterré le corps, donc les neshamot sont remontées ailleurs, ou bien qu'elles ne sont pas encore arrivées dans ce monde. D'ailleurs, pourquoi nous sommes ici? Il y a d'autres qui attendent leur tour pour arriver. On est d'accord ou pas? Il y a un nombre exact de personnes qu'Akadosh Baruch Hu décide chaque jour qu'ils soient dans ce monde. Ça fait peur. Ça veut dire que si tu ne joues plus ton rôle, il y a des gens qui attendent, qui disent, non, dégage-le, il ne fait plus rien. Il ne sert à rien. Ça veut dire que devant la porte, il y a une neshama maintenant qui attend de sortir comme un parachutiste dans l'avion, qui veut sauter. Ken, et Akadosh Baruch Hu lui dit, attends, c'est complet. Il dit, oui, mais lui là-bas, il ne faut rien, dégage-le. Et Chas v'shalom, si cette personne s'en va, il dit, tu peux sauter, vas-y. Donc il y a la même, ou une autre neshama qui vient remplacer celle qui n'était pas. Et c'est en réalité un mouvement perpétuel. Donc Akadosh Baruch Hu ordonne ce monde, et c'est exactement au détail près quelle neshama doit apparaître maintenant, et quelle neshama doit maintenant disparaître, parce que son corps ne joue plus son rôle.
On peut imaginer que les morts qui arrivent à
Même si c'est d'une manière absolue, c'est vrai, mais celui qui a causé ça, okay, il doit payer. Lui aussi doit disparaître. Okay. C'est pas, je donne pas. Pendant, c'est au bout de la rue. C'était traumatisé. Au départ. C'est pas vrai. C'est au départ. Regarde, je vais te retrouver. T'as eu peur? Pourquoi? Parce que t'as envie de vivre. Ça veut dire que ta volonté de vie est plus grande. Ça veut dire au départ, quand tu es arrivé sur Terre, il y a peut-être eu un choc, mais quand ta neshama a pris goût à ce monde-là, tu te défends. Et si maintenant je te blesse, tu vas te défendre. Pourquoi? Parce que tu veux vivre. Ton instinct de vie est plus fort. Donc ta neshama ne veut pas disparaître.
Il y a fait.
Donc moralité, quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui se bat pour vivre. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est une maladie qu'il faut soigner. Si, il y a des gens qui, parce qu'ils sont maintenant, chas v'shalom, malades, donc ils ne se battent plus pour vivre, on les appelle des gens qui sont dépressifs.
Mais c'est indépendant d'abord physique, après c'est ton corps, il ne peut pas te protéger contre ça.
Mais toi tu veux vivre,
voilà.
Bien fait. Donc ton système d'avoir seulement eu peur de la chose, ça prouve déjà que tu es déjà dans un instinct de vie. D'accord? Si tu as mal en fait, ça prouve que tu es vivante. On est d'accord? Pourquoi nous avons mal quelque part de temps en temps? Parce que c'est contre le système global et ça m'indique aussi une faiblesse dans un certain membre. Si Chas v'Shalom, il y avait une maladie dans un des membres du corps et ce membre-là ne faisait pas mal, la personne mourrait sans se rendre compte. Donc qu'est-ce qui nous a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il nous a fait ressentir, pas le mal, non, le membre en question. Par exemple, pourquoi j'ai mal à la tête ? Pour sentir ma tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas ? C'est un petit peu trop compliqué ? Ça veut dire que là, maintenant, tu n'as pas mal à la tête, donc tu ne sens pas ta tête. Tu ne penses même pas à ta tête. Mais maintenant que je t'ai dit, tu es en train de réfléchir à ta tête. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu as oublié, maintenant tes doigts de pied, tu n'en as rien à faire. Et pourtant, si tu avais mal au petit doigt, eh bien tout ton système, c'est comme si tout ton être disait « Oh là là, le porc, le petit doigt, et on souffre tous pour toi. » La preuve, c'est que tu ne peux même pas marcher. Tout le corps boite. Alors que c'est que le petit doigt. Si le corps était égoïste, il aurait dit au petit doigt, on s'en fiche, son problème. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un degré qui vient me réveiller pour soigner, pour guérir, pour m'en occuper. Okay? Ça veut dire que quand tu as en fait un problème de définir quelque chose, un mal, eh bien on te donne une maladie. Écoutez bien le mot maladie. C'est-à-dire que grâce à ton mal, tu commences à dire. Alors que tu ne savais pas définir. D'accord ? Vous ne faites pas attention, parce qu'en réalité, ce sont toute notre vie, c'est comme ça. C'est pour ça que l'étude est importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la maladie, maintenant, vous comprenez ? C'est quelque chose que tu ne pouvais pas définir. Akadosh Baruch Hu te donne des avertissements, et tu ne veux pas l'écouter. Il te dit, par exemple, de bien te couvrir, de bien dormir la nuit, et tu ne veux pas. Alors, ton corps commence à quoi ? À râler, à se manifester. Jusqu'au moment où il te dit, écoute, moi je te force maintenant à rester au lit. C'est fini. Tu n'as plus le choix. Je ne me lève pas ce matin. Et toi, comment ça se manifeste ? Tu es malade. Donc tu restes au lit, cloué, forcé par le corps que tu n'as pas su écouter pendant tous les cris qu'il t'a envoyé. Il t'a envoyé des cris sans arrêt, il t'a levé des drapeaux, stop, je peux plus. Mais toi, tu dis non, j'en ai rien à faire, je t'écoute pas. Ah, tu m'écoutes pas, tu vas voir. 5 jours, tu bouges plus du lit. Ok ? Après ? Que ça veut dire que c'est pas toujours comme ça ?
Par exemple, si on prend un enfant malade,
okay.
On va dire qu'un enfant de, je sais pas, 7 ans qui a le cancer du sang, il ne sait pas écouter.
Ok. Pas ici, dans une réincarnation qui a précédé celle-ci. Ouais. Tu crois que le monde commence par l'histoire du bébé de maintenant ? Si tu t'occupais moins de ton portable, tu serais avec nous. Ok, je sais, moi aussi. L'histoire de notre vie ne commence pas avec notre corps de maintenant. Ta neshama, c'est une neshama qui peut-être a déjà vécu dans d'autres corps. Elle fait un voyage, et de temps en temps, elle change d'enveloppe. C'est tout. Ah, c'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À force des écorces, tu te souviens pas. Mais normalement, tu devrais te souvenir. Les sages nous disent ça. Bien sûr. Il y a marqué dans le cantique des pères, da, mais aïn, bata. Ou les al, ata, olé. Traduction, sache d'où tu viens et sache où tu vas. Ouh là là. Ça veut dire qu'en réalité, je suis pas quelqu'un de nouveau, moi. C'est juste mon corps qui est nouveau. Mais ma neshama, elle est très vieille déjà. C'est-à-dire que je peux avoir maintenant un neveu qui a la neshama de mon arrière-arrière-grand-père. Cette neshama, elle revient parce qu'elle n'a pas terminé dans l'ancien corps totalement tout ce qu'elle devait faire.
Comment on explique la neshama quand elle vient au corps, elle repart quand même à zéro?
Elle repart pas à zéro.
C'est-à-dire que...
Elle va et qu'elle repart à zéro.
Qui ont traversé les siècles et qui ont toujours pas compris.
Bien fait. Donc elle peut revenir, à chaque fois qu'elle arrange un petit peu, elle peut revenir même 1000 fois.
Mais
la neshama, arriver à son but, ça veut dire réaliser 100% de tout son potentiel. Après, c'est fini. Ça veut dire que, non, elle va revenir sous une autre forme pour aider d'autres neshamot à réaliser, parce qu'elle n'est pas seule. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous donner, je vais gâcher une feuille de papier, mais c'est pas grave. Ça, c'est ma neshama de base. D'accord? On m'a rentré dans un corps. Voilà le corps, il est venu. Le corps, à cette période-là, il s'appelait Yehuda. Yehuda, il a vécu 70 ans. Il a arrangé de toute cette neshama qui devait se dévoiler, que ça. Donc tout ce Yehuda repart chez Akadosh Baruch Hu, on lui dit, attends, tu as reçu tout ça, tu n'as arrangé que ça. Bon, Yehuda, il a fini son travail. Mais cette neshama, elle n'est pas encore réalisée complètement. Elle va descendre dans un nouveau corps qui s'appelle Pinchas. Pinchas va descendre avec la même neshama qu'il avait avant.
Il ne peut pas descendre dans le corps d'une femme alors.
Il peut descendre dans le corps d'une femme.
Ça veut dire que chaque neshama qui sont en haut, il peut devenir sinon.
Donc finalement, je descends chez Pinchas et arranger que ça. Pinchas va remonter. Il va revenir en David. David va arranger que ça. Il va remonter. Il va revenir en Olga. Elle a arrangé que ça. Il va revenir. Ça veut dire qu'il y a 200, 300 personnes qui ont travaillé sur la même âme. Alors, très bien. C'est une très bonne question. Elle est marquée dans la Gemara. Ta question est forte. Et elle est vraie, et elle est marquée dans la Gemara. Au moment de la résurrection des morts, tous ceux qui ont participé à la même neshama vont revenir. Donc Pinchas va reconnaître Yehuda.
Il va le reconnaître. Yehuda et deux, il n'y a pas de corps.
Pourquoi il n'y a pas de corps? Qu'est-ce que c'est Triat HaMetim? C'est la résurrection des corps, des neshamot dans des corps. Il n'y a pas de corps à Triat HaMetim, alors c'est quoi Triat HaMetim?
Okay.
C'est-à-dire tous ceux qui sont déjà morts. Yehuda, il est enterré à Ashdod. L'autre, il est enterré à Paris. Olga, elle est enterrée à Barcelone. Mais c'est pas grave. La résurrection des morts, c'est les morts qui reviennent, et tous les morts vont savoir, et c'est ça la philosophie, de quelle partie on partage la même neshama.
Alors, une même neshama.
Attendez, attendez, pas tous en même temps. On a des réponses très précises. Très précises.
Demain, je
reviens.
Et les gens reviennent aussi. Et toi, tu vas savoir, en fait, qui était associé avec toi.
Voilà,
puisque c'est la neshama. Ben voilà. Une neshama ne peut pas rentrer dans un seul corps, c'est trop fort pour le corps. Il explose le corps. Si on pouvait révéler... C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Adam Arishon, pourquoi il a eu des enfants? En réalité, c'est le pitsoul de la neshama. Toi, tu t'appelles Ben Adam? Moi aussi. Comment ça se fait? Fragmentation. Une partie du travail.
Ça voudrait dire que moi, si je reviens demain, je vais bénéficier de ceux qui ont travaillé avant. Alors que eux, ça va rien leur changer.
Pourquoi ça va rien leur changer? Tu rajoutes, tu complètes les uns les autres. On est tous faisant partie d'une seule neshama et on se complète les uns des autres. Ça veut dire que... Pourquoi vous croyez que je suis ici maintenant en train de vous donner un cours? Pourquoi vous croyez qu'on s'est rencontrés un jour? Pourquoi on s'est rencontrés? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre maintenant qui est là? Parce qu'il y a quelqu'un qui ordonne tout ça. On est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je fais partie de votre neshama et vous faites partie de la mienne, donc on s'est rencontrés dans ce monde. Ça veut dire qu'on fait partie de la même âme peut-être. Et donc tous les gens que tu vas rencontrer dans ta vie réellement, avec lesquels tu vas développer quelque chose, c'est des gens qui travaillent pour le même ensemble. Donc en fait, combien d'âmes il y a en tout? Non. Au départ, il y a Nishmat Israël, mais après elle se subdivise dans notre monde en 600 000 Neshamot. Vous avez entendu ce nom? 600 000, c'est le nombre de base de toutes les Neshamot. Maintenant, combien de personnes juives il y avait de facto dans ce monde? Depuis la création du monde? Des millions. Alors comment 600 000 se subdivisent en des millions? Ça te donne une réponse?
Donc, à la même période,
elle se fragmente en différents corps. C'est pas qu'elle se fragmente. C'est la même âme. Toutes les deux. Vous êtes en train de travailler sur le même travail. C'est pour ça que vous êtes tous coincés dans ce petit boîte d'allumettes qui s'appelle Machon Aura. Parce qu'au niveau de l'univers, c'est une boîte d'allumettes. Même pas. Ça veut dire, pourquoi vous êtes coincés tous dans les mêmes chambres, dans les mêmes trucs, vous étudiez dans les mêmes classes avec... Parce qu'en réalité, vous partagez une âme commune que vous ne savez même pas. Mais vous êtes en train de travailler pour la même neshama.
Ça veut dire que là, on a la même neshama.
Okay.
Mais c'est possible aussi qu'on
n'est
pas la même.
C'est possible aussi qu'il n'y ait pas la même. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, si tu n'as pas la même neshama que moi, j'ai des doutes. J'ai déjà presque la même montre. Ok? Ça veut dire qu'on fait équipe, quoi. Ok? Ça veut dire qu'on est dans une équipe, on a quelque chose à travailler.
Ça veut dire que de la même famille, mais aussi qu'il y aura la même neshama.
C'est pour ça que tu as choisi, en fait, de descendre dans telle famille et pas dans une autre. Moi, ma femme, c'est quoi? C'est une partie de moi, sinon comment je la retrouve? Il y a même deux témoins. Pourquoi il y a deux témoins au mariage? Parce que quand tu retrouves quelque chose dans la halakha, il faut deux témoins pour dire oui, c'était à lui. Donc les deux témoins au mariage, ils disent oui, c'est à lui, on se rappelle. Eh bien, juste revenir à moi. Donc j'ai retrouvé une trouvaille. J'ai trouvé la moitié. C'est tout. Donc vous êtes en train de chercher votre moitié. Le jour où vous allez trouver, vous amenez deux copines à vous, à la Rabanout, deux témoins. Oui, c'était lui, on se rappelle. Dans un subconscient, c'était lui.
Il y a une transmission
des Neshamot. Il y a une transmission des Neshamot. Mon fils, c'est la... Mon fils, c'est moi. Mon fils, c'est moi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, il doit développer des choses que moi, je n'ai pas développées.
Ça veut dire,
Vous comprenez ce que je suis en train de raconter?
Oui, mais
Pas trop, parce que c'est compliqué.
Non, c'est pas dur. C'est pas dur, il faut juste accepter parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est nouveau chez vous, mais en réalité, c'est très simple. C'est la même Neshama qui se voit sous différentes formes et fait différents degrés.
Mais on a des sources de tout ça.
Quel concret, il n'y a pas de doute. Le Arizal a écrit un livre qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim, la porte des réincarnations. Donc le Arizal, personne ne le remet en question. Et il reçoit en Ruach HaKodesh, et les prophètes et tout ça, c'est Dieu qui parle. Donc en réalité, c'est quelque chose qui existe chez nous. Alors que les Juifs pensent que ça existe chez les Hindous, chez je ne sais pas qui. Ça vient de chez nous. Et toutes les Gilgulim, ils viennent du mot Galgal, c'est-à-dire c'est une roue qui revient.
Et du coup,
donc il y a un voyage des âmes.
Si on finit cette mission,
on a fini la feuille de papier.
Non,
c'est fini. C'est une Neshama qui a été complétée. Quand toutes les Neshamot vont être complétées comme ça, c'est fait. Quand toi, tu ne fais pas un travail, en fait, on est obligé, parce que le travail n'a pas été fait. Donc on est obligé d'envoyer quelqu'un d'autre, c'est tout. Oui, c'est des gens qui sont très grands, comme Moshe Rabbeinu.
Mais comment quand on dirait qu'on a dit qu'il y a une fragmentation de la Neshama, donc chacun fait sa part.
Oui. C'est pas une fragmentation parce que c'est une idée qui est tellement élevée que je ne peux pas parler de fragmentation. Il y a une multitude de révélations de la même. Je vais te donner un exemple.
Donc on n'est pas ce que l'autre va faire.
Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est mon corps. Ma Neshama est une. Combien de degrés dévoile cette même Neshama dans mon corps? Dans tous mes membres. Toi, tu es le pouce, moi je suis l'index. Est-ce qu'on travaille pour la même Neshama? Oui ou non? Oui. T'as rien perdu. Regarde, reviens avec moi. J'ai une seule Neshama qui est en moi, d'accord? Combien de membres j'ai dans mon corps? 613 à peu près. Membres. Tu es d'accord que les 613 travaillent tous pour la même Neshama?
Oui.
Eh bien. Chaque membre, lui, maintenant, il est différent de l'autre. Et pourtant, il fait le même travail à un autre degré. Regarde, il y a maintenant 5 éléments qui vont obéir à ma volonté intérieure qui est ma Neshama. Regarde, hop. Ils se sont tous mis d'accord pour aller lever le verre d'eau que j'ai voulu.
Il y a
fait. Donc ça peut être, voilà, un homme, là, Yehuda, il y a Yosef, il y a David, il y a Binyamin, ils sont tous là. Il y a fait. C'est pour ça que dans le langage biblique, c'est très bien, je vois que tu as une intelligence qui est aiguë, et c'est très bien, Baruch HaShem. Comment tu dis, est-ce que tu veux, dans le langage de la Bible, Im yesh et nafshecha, si ton âme veut. C'est-à-dire, l'âme, c'est le vouloir. C'est bien que tu sois arrivé à ça. Je suis content. Et d'ailleurs, on l'a dit, dans la paracha de cette semaine. Est-ce que Rivka veut aller avec Eliezer? Ou pas. Nishal et nefesh ha'isha. On va demander à son âme, ça veut dire à son vouloir, à son désir. Donc en réalité, je peux mesurer ton âme par rapport à tes désirs, à ce que tu veux dans la vie. Une grande âme, c'est quelqu'un qui veut beaucoup. Une petite âme, c'est quelqu'un qui se suffit de peu dans tout. Alors, est-ce que c'est mieux d'être une grande ou une petite âme?
C'est dur
à chercher. D'accord. Les petites âmes ou les petites volontés, en réalité, sont heureux, mais en réalité, c'est pas un vrai bonheur. D'accord. Mais en réalité, quelqu'un qui veut beaucoup, qui veut le plus de tout, qui est le roi de toutes les volontés, Hachem lui-même. C'est-à-dire que c'est lui le Ratson. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'infini qu'on ne peut même pas comprendre. Moi, si je veux ressembler à Dieu, je dois être quelqu'un qui veut beaucoup ou qui veut un peu? Qui veut beaucoup. Donc ne vous suffisez pas d'imbécilité, de médiocrité, Ça n'a jamais aidé un homme à devenir réellement ce qu'il doit être. Il va peut-être vivre comme un imbécile heureux. Mais ce n'est pas le sens de la Torah. Okay.
C'est possible que les Neshama soient petites en rapport, pas grandes en tout.
Okay. Ça dépend du cli. Par exemple, un verre de thé, du thé maintenant chaud, dans ce verre, qu'est-ce que ça lui fait? Ça le fait fondre, alors que le verre d'eau, lui, il le supporte. T'as compris? C'est le même verre, seulement le liquide qui est à l'intérieur a tout changé. C'est-à-dire, si vous vous sentez, oh, j'en peux plus, ça veut dire que vous avez une grande âme et que votre corps, vous ne faites pas assez pour le mettre au niveau de votre âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez comme une explosion ou une implosion continuelle. Vous êtes dans un mal-être. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc? Élargir ton corps. Pas... élargir ton corps, c'est-à-dire élargir ta capacité à contenir l'âme qui est en toi. Il y a fait. Alors, augmenter ses désirs de Torah, de lumière, de valeur divine. Donc, tu élargis, en fait, ta capacité à contenir aussi. De son souffle à lui.
C'est à nous d'aller vers ce but, c'est-à-dire d'agrandir par la Torah vitale, c'est parce que, justement, on a reçu quelque chose de
divin. C'est pour ça que tu as un degré infini, tout le temps tu veux t'améliorer. Tout le temps, il n'y a pas de fin. Tu as acheté cette paire de lunettes, tu vois une autre, tu as envie d'acheter une autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu te sens tout le temps insatisfaite d'un autre degré. D'un côté, tu peux dire, ah là là, je suis une insatisfaite totale. D'un autre côté, tu te dis, non, au contraire, je suis en train sans arrêt de vouloir m'améliorer, sans arrêt dévoiler le suprême dans ma petite personne, de mieux en mieux.
D'accord.
C'est pas grave. Ça veut dire que de temps en temps, tu es fatigué, tu te dis, bon, stop, je fais un petit repos, un petit break, et après tu continues à dance. C'est tout. Mais c'est en réalité toujours le même système. Tu vois, par exemple, ça veut dire, il y a beaucoup et je me sens petit. C'est un cri. C'est un cri intérieur que je dois entendre, moi, en tant qu'enseignant. Ça veut dire, oh là là, tout ce qu'on a à apprendre, tout ce qu'il y a encore, moi qui croyais.
Et là, c'est vos connexions de Neshama?
Non. C'est parce que j'ai peut-être un petit peu d'expérience au niveau des bruits intérieurs, des grimaces, des souffrances. C'est une souffrance. Mais c'est une souffrance qui est bonne. Ça veut dire, elle se dit, oh là là, il faut que je bosse. Dedans, c'est ça le cri. Il faut que je bosse, il faut que je travaille parce que oh, c'est des données énormes, c'est nouveau, c'est plein de trucs et j'ai envie. C'est bien, bah au prochain. C'est net. Donc en fait, ça crée des manques, mais les manques sont là pour nous dire, alors remplis. Comment on dit en français quand on veut vraiment quelque chose? Je suis à vide. Maintenant, tu comprends pourquoi. Tu es avide de. Je suis avide, donc remplis-moi.
C'est
pas si bête,
hein, cette langue.
Vous comprenez? Parce que je suis en train de me remplir.
Non.
Par exemple, asocial, associable, ça veut dire anti. C'est-à-dire, je ne veux plus rester dans ce vide, voilà. Mais c'est la même chose. Et tu as raison, les langues, les langages viennent d'un mouvement intérieur qui, en fait, génère tous ces secrets. Donc le langage nous enseigne, en fait, les secrets. C'est clair? Donc, il reste encore tout ça à arranger. Mais ce sera pour un autre jour. Tadarabah.